prophète Daniel, c'est l'expérience d'un homme qui a eu beaucoup de mal, lui aussi, et je dirais, malheureusement, n'a jamais saisi la grâce de Dieu, n'a jamais saisi que Dieu était celui à qui on devait rendre gloire d'une manière permanente. Il s'agit de Belshazzar. Écoutez, s'il vous plaît, simplement ces versets que je vais lire pour vous. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Alors, tous les sages, tous les magiciens sont venus, ils n'ont pu donner d'explication, mais on a fait appel à Daniel. Et quand Daniel, le prophète, est arrivé, alors voici ce qu'il a dit à ce roi. Pourquoi, c'est pourquoi Dieu a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume, sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Je voudrais simplement dire, en commençant, qu'un homme averti en vaut deux. Vous connaissez ce dicton. Et Belshazzar était un homme qui avait été averti par l'expérience faite précédemment par son père, qui en réalité n'était pas son père direct, c'était un de ses ancêtres, il était plutôt le grand-père de Belshazzar. Mais il avait été témoin d'une expérience faite par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un grand roi, il était un homme connu pour sa gloire, sa magnificence, qui lui avait été d'ailleurs donné par Dieu. Mais un jour, il s'est trouvé sur la muraille de son palais royal, et puis il a observé la ville de Babylone qui s'étendait comme cela, semble-t-il, à ses pieds. Et il a manifesté de l'orgueil, et il a dit, « Voici la ville que j'ai construite par la force de mon bras. » Il connaissait Dieu, et il aurait dû rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il avait reçu de la part de ce Dieu, qui lui avait accordé la gloire, la magnificence, le pouvoir, une autorité réelle. Mais vous savez, quand on reçoit quelque chose de Dieu, il est très important que nous lui soyons reconnaissants et que nous marchions aussi dans l'humilité. Car si Dieu nous accorde quelque chose, ça veut dire que nous ne le méritons pas, mais que c'est un effet de sa bonté et de sa grâce. Et lui n'a pas su donner gloire à Dieu. Et comme il n'a pas su donner gloire à Dieu, mais qu'il s'est élevé, alors Dieu a permis quelque chose. Il a été humilié au point même qu'il est devenu semblable aux bêtes des champs. Et la parole de Dieu déclare que ce grand roi, malgré sa magnificence, est devenu comme un animal. Il était comme les bœufs dans les champs. Il se nourrissait de l'herbe des champs. Il a commencé à être négligent et les cheveux ont commencé à pousser et les ongles également poussaient démesurément et on ne pouvait pas le reconnaître. Il a perdu la raison et dans cet état-là, eh bien, profondément humilié, Dieu a permis quand même qu'il y ait un instant de lucidité pour qu'il puisse comprendre quelle était son erreur et son orgueil. Et dans cet instant de lucidité, il s'est humilié, il a demandé pardon à Dieu, et comme cela nous a été rapporté par ces différents témoignages, quand on est vrai avec Dieu, quand on est sincère et qu'on invoque son nom de tout son cœur, quel que soit l'éloignement dans lequel on peut se trouver vis-à-vis de ce Dieu. Si nous crions à lui, la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Et là, il était profondément misérable. Il avait connu la gloire, mais là, il était, je dirais, humilié et il était au plus bas. Mais quand il a crié à Dieu reconnaissant son erreur et ses turpitudes, Dieu est venu à son secours. Et Dieu, dans sa grâce, lui a redonné la magnificence, la gloire, il a retrouvé la puissance, l'autorité, le pouvoir. Et cet homme a pu reconnaître que ce Dieu-là, qui était venu à son secours, c'était le Dieu que l'on devait adorer. Et d'ailleurs, il a parlé assez grand en disant, ce Dieu-là, c'est le Dieu véritable. Belshazzar a pu être le spectateur de ce qui s'était passé dans la vie de Nebuchadnezzar. Mais voyez-vous, il n'a pas tenu compte de ça. Comme ça arrive à certaines personnes qui entendent des témoignages, et les témoignages peuvent se multiplier. Et dans le fond de leur cœur, ils savent que ce qu'ils entendent est vrai, que cela correspond à quelque chose d'authentique. Mais ils restent avec un cœur indifférent. Je pense à des jeunes gens, des adolescents, parfois même des enfants, qui ont pu voir dans la vie de leurs parents, eh bien, des choses vraiment remarquables. Parfois, ils ont été aussi les témoins de leur turpitude, de leurs erreurs. Mais ils ont pu observer aussi que lorsqu'ils se sont humiliés, bien, Dieu est venu à leur secours et Dieu les a aidés. Mais ils restent quand même comme cela avec un cœur dur, froid, glacé, un cœur semblable à du béton. C'était le cas de Belshazzar, qui de plus a ajouté à son indifférence, eh bien, je dirais une provocation. Il a lancé un défi à Dieu. Il organise un grand festin où il invite tous les grands de son royaume, il invite ses femmes, ses concubines, ce qui était une chose acceptable à cette époque-là. Les grands de son royaume sont venus avec leurs femmes, leurs concubines, Et jusque-là, ils se sont livrés à une sorte d'orgie. Ils ont bu vraiment en provoquant Dieu. Ils ont mangé, pardon de l'expression, comme des porcs. Et puis, ils se sont livrés à toutes sortes de choses horribles, mais par-dessus tout, voilà le défi. Belshazzar a pris les vases d'or qui étaient dans le temple, et comme ils avaient été enlevés, il s'en est servi pour boire avec les grands de son royaume. Voilà, ces objets qui étaient précieux, qui devaient servir à la gloire du Seigneur dans le culte adressé à l'Éternel, il s'en est servi et il a profané ce qui était saint. Vous voyez, je me rends compte qu'à ce moment-là, eh bien, il ressemble étrangement à ce que l'on peut voir aujourd'hui au sein de notre société, où quand on parle de choses qui sont vraiment remarquable, formidable, merveilleuse. Quand on présente même ne serait-ce que l'Évangile, les gens ont tendance à tourner en dérision l'Évangile et à se moquer des choses saintes. Nous avons eu une conversation, quelques-uns d'entre nous, pendant ce moment de convivialité, et nous avons souligné quoi ? Que dans le fond, aujourd'hui, dans le monde, eh bien, il y a de la place que pour des choses viles et tout va dans le sens que l'on doit oublier ce qui vient de Dieu. Et si on connaît quelque chose qui est vraiment saint, digne de louange, eh bien ça, on le méprise. L'Évangile est méprisé. Voyez-vous, cette semaine même, nous avons entendu ce témoignage de notre petite fille qui a encore un âge bien tendre, et elle a 12 ans, elle est justement dans la région lyonnaise. Et puis une petite camarade lui a dit, mais moi je voudrais connaître le Seigneur. C'est étrange déjà qu'à cet âge-là, on puisse parler de cette manière-là. Et elle a dit, mais je voudrais, moi, obtenir la Bible. Je voudrais avoir cela à ma disposition. Je voudrais la lire. Et puis, ma petite fille en a parlé à ses parents. Et puis, elle a eu ce petit Nouveau Testament. Mais écoutez bien la suite. Le petit Nouveau Testament, elle l'a reçu avec beaucoup de joie. Elle est entrée à la maison et elle en a parlé à sa maman, qui est arrivé dans la maison de mes enfants avec le petit Nouveau Testament. Et il a dit, écoutez bien, que jamais plus votre fille ne parle du Seigneur, et ça ne rentrera pas chez moi. Et voyez-vous, elle a rendu le Nouveau Testament, et il ne nous reste plus qu'une possibilité, de prier pour la petite. Petite qui, elle, a soif, mais qui se trouve là, dans cette ambiance familiale où l'on rejette Dieu et on ne veut pas entendre parler de lui. Et vous savez, la Bible est claire. Quand on est dans une telle position, dans une telle situation, on ne peut être que dans l'attente d'un terrible jugement. Parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Et ce que l'on sème un jour ou l'autre, on le récolte. Et il est ajouté dans la Bible, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de ce Dieu vivant. Nous le connaissons comme un Dieu bon, un Dieu amour, un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, et nous avons goûté à tout cela. Mais si on rejette ça, alors on ne peut être que dans l'attente d'un terrible jugement. Et un jour ou l'autre, eh bien, le jugement de Dieu peut s'exercer. Et c'est ce qui s'est passé pour Belshazzar. Cette nuit-là, où il se livrait à des orgies et se moquait de Dieu, une main est apparue. La Bible dit une extrémité de main. Je comprends que ça devait être drôlement impressionnant. Il est en train de s'amuser comme un fou, de se divertir. Il utilise les choses saintes, se moque ouvertement de Dieu. D'un seul coup, il voit que quelque chose est écrit sur la chaux de cette muraille de son palais. Et avez-vous remarqué comment, en peu de temps, l'orgueilleux Belshazzar, il devient comme un tout petit enfant. Parce que vous en avez connu des prétentieux comme ça, qui disent « Ah, moi, je ne crains rien !» Mais quand le malheur les frappe, ils deviennent comme des enfants. C'est assez amusant comment la Bible parle de ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Il est dit que les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se témoignèrent d'affection l'un à l'autre. Il disait l'un à l'autre « Je t'aime ». Mais nous comprenons ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ça veut dire aussi que le sol est devenu mouillé, parce que si les jointures de ses reins se sont relâchées, eh bien, vous comprenez la suite. Voilà, l'homme, dans son orgueil, qui est humilié, qui demande tout le monde, est en train là de devenir comme quelqu'un qui n'a plus de ressort en lui-même. Et ce qui est triste, c'est que lui qui savait comment Dieu avait agi puissamment pour Nebuchadnezzar, au lieu de faire appel à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il demande que les magiciens, les grands, les sages de son royaume viennent pour essayer de lui donner une explication de l'écriture qui est là devant ses yeux. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à notre société à l'heure actuelle? Parlez de Dieu, on ne voudra pas vous entendre. On vous dira, est-ce qu'il existe Dieu? Mais par contre, demandez-leur dans certaines situations difficiles, comment ils font? Et ils vont vous dire, ah ben moi je fais confiance à ceux qui pratiquent les sciences occultes. Je fais confiance à telle personne, à la parapsychologie, parce que je sais que ça c'est réel. C'est curieux, vous ne trouvez pas? On veut pas de Dieu, mais on est prêt à ouvrir le cœur et même à attendre le secours de la part de ceux qui ne sont que des charlatans pour quelques-uns, mais dont d'autres possèdent une véritable puissance diabolique. Et c'est normal que devant une telle situation, eh bien, Dieu soit prêt à prononcer un jugement. Et comme personne n'a pu donner une explication de l'Écriture, c'est Daniel, le prophète, qui vient, tout simplement. Parce que c'est justement la femme de Belshazzar qui s'est souvenue, il y a un homme qui a l'Esprit Saint en lui. Elle n'a pas parlé comme ça, elle a dit l'Esprit Saint des dieux. Elle ignorait, n'est-ce pas, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Elle parle comme les païens, les idolâtres peuvent parler. Mais il y a un homme qui a l'esprit des dieux et lui pourra révéler ce qu'il en est. Et Daniel arrive et il rappelle à Belshazzar tous ceux qu'il a eu l'occasion de connaître. Il lui parle de l'expérience de son père. Et il lui dit, mais toi tu n'as pas voulu rendre gloire à Dieu. Et toi, tu t'es moqué ouvertement de Dieu. Alors maintenant, je vais te dire, voilà ce qui est écrit là, sur la chaux du palais royal. Comptez, pesez, divisez. Trois mots très importants. Je vais essayer de rapidement vous placer devant la réalité de ces mots-là. Et puis j'en aurai fini. Comptez. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu connaît quelle est la longueur de notre vie. Elle est inscrite dans la paume de sa main, nous dit l'Écriture. Il sait exactement le nombre de jours que nous avons à passer ici-bas sur la terre. Et voyez-vous, qui que nous soyons, nous devons savoir qu'il y aura une fin à notre existence terrestre. Tous les enfants ici doivent le savoir. Tous les adolescents doivent le savoir. Parce que quand on parle de cette fin de la vie, souvent les enfants ou les adolescents ou les jeunes disent « Oh, on a le temps, nous avons toute la vie devant nous, toute la vie devant nous. » Permettez-moi de partager un témoignage avec vous. D'ailleurs, il y a des frères de l'Assemblée d'Aix-en-Provence ici, en tous les cas, qui connaissent certaines choses de cette Assemblée. Et moi, j'ai été dans un temps où j'ai eu, je dirais, le privilège de connaître un jeune homme de 25 ans. Jeune homme de 25 ans qui aimait Dieu de tout son cœur. Et lui, vraiment, eh bien, avait une foi authentique. Non pas une foi superficielle, vous savez, que l'on met en avant, que l'on expose, comme pour dire, voyez, comme je crois en Dieu, comme je suis un être sensationnel. Non, il était très humble. C'est d'ailleurs le frère d'un serviteur de Dieu qui est encore à l'œuvre à l'heure actuelle dans notre pays. Et ce garçon-là, il était très simple dans l'église, personne ne pouvait trop le remarquer, mais il était tellement consacré que sans parler à qui que ce soit, il mettait en pratique sa foi, son amour, sa compassion pour les autres. Et c'est lui qui, sans rien dire, bien souvent allait visiter les personnes d'un certain âge, passer du temps avec ces personnes-là. Il ramenait certaines personnes qui n'avaient pas de véhicule pour se déplacer après la réunion à la maison, toujours disponible, toujours serviable. Écoutez bien, c'est en ramenant une de ces personnes après la réunion qu'il a eu un accident terrible. Et il était paralysé depuis la tête jusqu'à la plante de ses pieds. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce garçon tellement actif s'est retrouvé entièrement paralysé. Moi, je me souviens, quand j'allais le visiter, vous savez, on lui avait fait ici une trachéotomie et il avait un peu du mal à s'exprimer. Mais même quand j'allais le visiter, quand il pouvait s'exprimer de cette manière-là, il était toujours joyeux, toujours avec la paix dans son cœur. Toujours, il continuait à parler du Seigneur. Une fois, j'ai fait une expérience bouleversante. Je suis arrivé et là, un personnage d'un certain âge, il avait plus de 80 ans, un de ses amis est venu pour lui rendre visite. Alors je lui laisse la place parce qu'on ne pouvait pas entrer à plusieurs. Ce personnage est rentré et à peine, quelques instants après, je le vois sortir et il était en larmes. Et je lui dis, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur, j'ai dit, je pensais que le garçon eh bien, avait connu quelque chose de mauvais. Et il me dit, non, il n'y a rien qui s'est produit de mal pour lui. Sauf que, écoutez, c'est plus que je ne peux en supporter. Vous vous rendez compte, ce garçon, dans l'état où il est, il m'a dit, monsieur, vous savez, je sais en qui j'ai cru, j'ai une paix ineffable dans mon cœur. Et il s'est adressé à ce vieillard, qui était son ami, et lui a dit, monsieur, je souhaiterais tellement que vous connaissiez ce que je connaisse. Et lui, il était, malgré son âge, bien portant. Et il a dit, comment voulez-vous que je supporte ça? Un garçon de 25 ans, dans cet état, qui me parle de cette manière-là, il pleurait. Son cœur avait été touché. Vous savez, quelque temps à peine après, une deuxième erreur a été commise. Ceux qui s'occupaient de lui et qui prenaient un bain pour lui, eh bien, l'ont laissé tomber, l'a glissé dans la baignoire, l'eau est entrée dans ses poumons, il y a eu une infection, et il est parti. Mais la seule chose que j'ai retenue, c'est que ce garçon, jusqu'à la fin, Il a gardé les yeux fixés sur Dieu. Je dirais même, une fois, deux membres de sa famille qui ne pouvaient pas se voir sont arrivés en même temps. Et il leur a dit, « Moi, je m'en vais bientôt partir rejoindre le Seigneur. S'il vous plaît, ne restez pas dans votre péché. Ne restez pas dans votre péché. » Et je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Mais moi, ce que je dis, rien ne peut remplacer cette joie de connaître le Seigneur. Et je m'adresse à tous les jeunes. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Dieu seul connaît la longueur de notre vie. Compter, ça veut dire tes jours sont comptés. Tu ne peux pas dire, oh ben j'ai le temps. Non, tu n'as pas le temps. Un homme dans le Nouveau Testament a parlé de cette manière-là. Et il a dit, ah mon âme, réjouis-toi et bois, puisque tu as des biens en abondance. Il avait vu passer les chars de blé devant ses yeux et il disait, là, j'ai vraiment de quoi vivre tranquillement pendant de nombreuses années. Sauf que, la Bible dit, une voix s'est fait entendre, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'affirmer ce soir, demain je serai encore en vie? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire, jeune ou moins jeune, tout à l'heure m'appartient et je serai encore là? Personne, ni moi non plus. C'est la raison pour laquelle, sachant cela, il faut se préparer à rencontrer Dieu. Comptez, tes jours ont été comptés. Pesez, ah, il ne s'agit pas du poids sur le plan physique. Pesez, ça veut dire que certaines personnes s'imaginent que selon le bien qu'elles ont fait, eh bien, ils seront acceptés de Dieu. Combien de fois j'ai entendu cette réponse de la part de certaines personnes? Oh, vous savez, on ne peut pas savoir si on peut être sauvé ici-bas sur la terre. Quand on sera là-bas, on verra bien. Et puis, qui sait? Peut-être que le bien que j'ai fait va compenser le mal que j'ai fait. Peut-être que Dieu exercera. Non, c'est pas comme ça. Heureusement, notre frère nous l'a rappelé. C'est parce que nous faisons qui a du poids. Vous savez comment la Bible parle? Toutes vos bonnes œuvres sont semblables à un vêtement souillé. Ça veut dire que ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de valeur. On ne peut pas être sauvé par cela. Quand on fait des efforts pour croire que c'est par ce moyen-là qu'on peut être sauvé, non, Dieu dit, quand je mets ça sur la balance, eh bien tu es irrémédiablement perdu. C'est pas ça qui te sauve. La seule chose qui sauve, c'est la foi en celui qui a tout accompli pour nous sur la croix. Parce que c'est le sang de Jésus, comme nous l'avons chanté, qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Et quand on a cette foi-là, et que l'on a compris le prix payé par Jésus, on n'a qu'un seul désir, c'est de le suivre et de marcher dans l'obéissance. Mais il y a le troisième et terrible mot. Divisé. Pour lui, c'était le royaume divisé. Et c'était la perte de ce royaume, mais c'était le moindre mal. Surtout, ce qui était terrible, c'est qu'il allait rejoindre Dieu pour connaître la condamnation éternelle. Divisé, pour nous, ça veut dire quoi? Voyez-vous, la mort, c'est quoi? C'est la séparation de l'âme avec le corps. C'est une division. Lorsque je fermerai mes yeux définitivement ici-bas sur la terre, mon corps retournera à la poussière. Mais ma véritable identité, ce qui est en moi vit, vibre, ce qui est vraiment la chose importante que Dieu a mis dans cette enveloppe, ça, ça demeure éternellement. Ou éternellement en enfer, ou éternellement avec lui, quand on a saisi sa main salvatrice. Divisé, je regrette de devoir dire, un jour ou l'autre, ça arrivera pour nous tous. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. J'ai envie de terminer en posant la question. Cher ami, es-tu prêt? Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu? Avez-vous accepté Jésus comme votre sauveur? Ou continuez-vous dans l'indifférence, dans le mépris des choses de Dieu? À vous de répondre. En tous les cas, sachez une chose, c'est que Dieu vous aime et que son seul et unique désir, c'est de vous avoir avec lui pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.